Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
L'objectif, il faudrait être complètement fou pour ne pas le partager. D'ailleurs, ça concerne les agents du public, mais ça concerne aussi un certain nombre d'agents du privé. L'idée que ceux qui font tourner nos villes doivent avoir la possibilité d'y vivre, c'est l'évidence même. Et effectivement, que ça passe notamment par du logement social, parce que le privé est devenu beaucoup trop cher pour des petits salaires. Et donc, bien sûr qu'on a besoin de le faire.
Faut-il réserver une partie du parc social aux agents qui font vivre nos villes et nos services publics ? Une évidence même pour le sénateur communiste et ancien adjoint au logement de la ville de Paris, Yann Brossa, au micro de BFM TV cette semaine. Cette proposition du député Renaissance David Amiel fait partie d'un paquet de mesures énoncées dans un rapport remis ce mercredi au gouvernement sur l'épineuse question de l'habitat des fonctionnaires. Mais cela peut-il suffire à résoudre cette crise ? Il faut créer un choc d'offres, selon Gabriel Attal, expression reprise par Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, qui a annoncé ce lundi les grandes lignes d'un futur projet de loi qui prévoit notamment d'en finir avec, je cite, le HLM à vie. Ainsi, le gouvernement souhaite abaisser les seuils au-delà desquels les locataires voient leur loyer majoré ou leur bail résilié. Expulser les 8% les plus riches de leur HLM peut-il suffire à créer ce choc d'offres quand la Fédération des bailleurs sociaux et les associations du droit au logement évoquent une crise sociale sans précédent et un déficit patent d'habitations abordables ? Les Français n'ont jamais autant dépensé pour se loger. En moyenne, 20% de leurs revenus disponibles, mais le quart pardon, de ces foyers les plus modestes consacrent 32% de leurs revenus à cette dépense. Selon la Fondation Abbé Pierre, 16 millions de Français sont percutés par cette crise. 4 millions de personnes sont mal logées, 330 000 sans domicile. Face à ces chiffres vertigineux et à la baisse drastique de la mise en chantier de logement social, faudra-t-il être inventif ? Autoriser, protéger l'habitat extraordinaire, par exemple. Quand certains, face à des situations administratives, personnelles ou financières inextricables, poussent les grilles d'un camping pour y vivre à l'année, faut-il y voir un symbole du mal-logement ou un remède à la crise ? Bonjour Gaspard Lyon.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous venez de sortir « Vivre au camping », un mal logement des classes populaires. C'est sorti aux éditions du Seuil. On entendait le sénateur Yann Brossa dire qu'il fallait un retour finalement du logement de fonction pour les fonctionnaires, mais plus largement la nécessité en fait de garantir le maintien des classes populaires et des classes moyennes en centre-ville. Et pour ça, il n'y aurait que le logement social. Qu'en pensez-vous ?
Alors, le logement social, c'est effectivement fondamental. Il faut promouvoir, il faut une intervention plus forte, beaucoup plus forte de la puissance publique dans la construction de logements sociaux, et notamment des logements sociaux accessibles aux plus modestes, donc des logements PLAI, aux plafonds les plus bas. Mais c'est évidemment pas suffisant. Il faut aussi réguler davantage, je dirais, le marché immobilier, lutter contre la spéculation immobilière et foncière. Et donc, ça peut passer par différentes mesures. L'encadrement des loyers qui existe aujourd'hui de manière expérimentale seulement et de manière sur la base du volontariat.
Ouais.
Et dont les plafonds de loyers sont beaucoup trop élevés. Donc
elle n'est pas efficiente, cette mesure.
Disons que c'est beaucoup trop timoré comme mesure pour véritablement permettre une baisse. Enfin, rendre le logement accessible aux classes populaires, aux ménages modestes. On pourrait penser à une baisse, par exemple, du plafond de loyer pour annuler les effets de la hausse des dernières années. Et puis, il faudrait réguler aussi de manière beaucoup plus vigoureuse les locations en meublé touristique qui ont explosé depuis 15 ans.
Le phénomène Airbnb, évidemment.
Le parc locatif qui réduit les possibilités, qui augmente de manière conséquente les prix des logements, sans compter la vacance en matière de logement, sans compter les résidences secondaires qui ont aussi explosé depuis les années 2000. Aujourd'hui, c'est 10% quasiment des logements qui sont des résidences secondaires, y compris dans des villes très tendues comme Paris, dans des grandes agglomérations. Donc voilà, il y a une nécessité, je dirais, d'agir à différents niveaux.
Mais on entendait, le Premier ministre Gabriel Attal, repris par son ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, cette semaine reprendre encore cette nécessité d'un choc d'offres. Pour créer ce choc d'offres, un projet de loi logement doit être présenté le 7 mai prochain au Conseil des ministres, qui précise également une réforme de la loi SRU sur les quotas de logements sociaux qui doit être de 25% dans les villes qui sont soumises. Là-dedans, il y a la nécessité aussi, selon Guillaume Kasbarian, de sortir du HLM à vie en augmentant les surloyers, en résiliant des bails. Est-ce que ça peut créer ce choc d'offres et permettre une circulation aussi du logement social.
Bon, là, je dirais vraiment que ce sont des mesures qui vont totalement à contresens, hein, puisque c'est revenir sur la loi SRU qui impose aux communes la construction de 20 ou 25% de logements sociaux en y intégrant les logements locatifs intermédiaires. Or, on sait que ces logements locatifs intermédiaires sont totalement inaccessibles aux personnes qui font une demande de logement social. Hein, c'est à peine 3% des personnes qui font une demande sont éligibles à ce type de logement. Donc voilà, c'est finalement assouplir cette loi SRU, ça ne peut qu'aggraver les difficultés, réduire toujours plus le nombre de logements sociaux construits. Et je dirais que c'est une manière pour le gouvernement d'éviter de poser les vraies questions, celles de la construction de logements sociaux accessibles, celles de la régulation du marché, et une manière de détourner aussi l'attention de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des difficultés actuelles. Puisqu'en fait, le gouvernement a fait le choix de déployer une politique d'austérité budgétaire très agressive, notamment sur la question du logement, depuis 2017, avec différentes mesures qui ont été prises, qui ont réduit les ressources des ménages, notamment du côté des APL, 4 milliards d'économies réalisées tous les ans, et puis des mesures qui ont affaibli considérablement le secteur du logement social, avec en 2018 une mesure qui a réduit d'1,3 milliard d'euros les ressources des bailleurs, la hausse de la TVA qui est passée de 5,5% à 10% sur la construction de logements sociaux, PLS ou PLUS, la hausse également du livret A qui passe de 0,5% à 3%. Donc on est dans une situation où on n'a jamais aussi peu construit en fait de logements sociaux en l'espace de 20 ans.
On en a construit 93 000 versus 125 000 années.
C'est ça, il y a une baisse de plusieurs dizaines de milliers de logements tous les ans depuis ces mesures, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de personnes en attente d'un logement social, 2,6 millions de ménages aujourd'hui. Donc voilà, c'est des mesures qui vont clairement aggraver en réalité.
Donc on peut entendre l'argument de Guillaume Kasbarian quand il dit il faut faire tourner ceux qui n'ont plus vocation à rester dans un logement social.
Bah encore une fois, je dirais que c'est vraiment détourner l'attention des vrais problèmes, des vrais enjeux. En réalité, ça touche une toute petite minorité de la population, hein, des résidents du parc HLM, c'est 1,6% de ces personnes qui sont en surloyer. Et par ailleurs, ces personnes paient en fait déjà un surloyer qui participe de la construction de logements sociaux. Voilà. Donc c'est vraiment une manière, je dirais, de détourner l'attention, une fois encore, de la nécessité d'agir sur les causes structurelles de la crise du logement.
Sachant que sur cette mesure en particulier, les associations montent au créneau en disant que tout ceci va accélérer aussi la ghettoisation et qu'il n'y aura plus du tout de mixité sociale en fait dans ces espaces. Là aussi, c'est un enjeu.
En tout cas, disons que oui, clairement, il y a un décalage très fort entre l'affirmation du gouvernement qui consiste à plaider pour la construction toujours plus soutenue, plus forte de logements locatifs intermédiaires. Au prétexte de loger les classes moyennes, en réalité, en fait, c'est des cadres ou des cadres supérieurs. Et le fait de prendre dans le même temps ce type de mesures, c'est une façon, une fois encore, je dirais, de stigmatiser en fait les locataires HLM et les bailleurs sociaux. Et de ne pas apporter de réponse. En fait, cette loi, revenir sur la loi SRU, c'est clairement revenir sur une des mesures de solidarité nationale à l'échelle sur la question du logement. Hein. Mm-hmm. Ça ne peut qu'aggraver, la situation.
Ouais, qui n'avait même pas été demandée par l'Association des maires de France par ailleurs. Alors, je vous propose de partir du côté des Yvelines, dans le camping Le Criquet, à Freneuse. Ce camping accueille de nombreux résidents à l'année dans un mobile home, quelques centaines d'euros, peu de garanties administratives ou financières. On peut mettre un toit sur sa tête. Pour certains, c'est un choix de vie. Pour d'autres, c'est une solution d'urgence face à la réalité d'un marché dont ils sont exclus. Christine et Laurent sont résidents. Des témoignages qui ont été recueillis par Clara Menet.
Allez-y, rentrez, je vous en prie. Je vous fais visiter, c'est ça ?
La cuisine ouverte. Ensuite, allez-y rentrer, c'est la salle de bain avec le ballon d'eau chaude derrière vous. J'ai un de mes oncles qui vit et encore à l'heure actuelle dans un mobilhome, qui a toujours vécu avec sa femme et ses deux enfants dans un mobilhome et depuis toute petite, c'est resté. Pour moi, c'est une maison roulante, donc on peut se déplacer. C'était mon souhait. Et mon souhait s'est réalisé. Il n'y a pas de bruit, c'est calme, c'est reposant, c'est convivial. Honnêtement, je ferais tout pour rester ici. Moi, je suis du coin. Je vais avoir 57 ans au mois d'août. Moi, je connais très bien le Vieux Freneuse et puis toute la région. C'est beaucoup moins cher. Pour moi, Après, je ne sais pas pour les locataires, mais en tant que moi, résidente à l'année, je m'y retrouve. Je fais le ménage dans un centre médical, donc je commence à 5h30 jusqu'à 19h. Après, j'ai des particuliers, j'en ai 12 au total, dans une semaine, hein, de lundi à vendredi. Mais avant, je faisais lundi, samedi, mais j'ai levé le pied. Je travaillais beaucoup, et puis il arrive un moment, il y a l'âge aussi qui fait. Hein. J'ai plus 20 ans. Donc voilà. En fin de journée, quand je reprends la route, je me dis, oh, je vais être tranquille. Et donc, du coup, je l'ai acheté. Voilà. En appartement, en fait, quand il y a les voisins à côté, au-dessus, moi, j'appelle ça des cages à poules. Et on entend tout. C'est affreux, je peux pas. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en location par rapport aux tarifs, déjà. Et puis, de deux, trouver un logement à l'heure actuelle, c'est très, très compliqué. Il faut pouvoir trouver, et puis après, bah, il faut trouver un garant et qu'il a les reins solides. Mais moi, c'est un choix. Moi, c'est mon choix, c'est pas... Moi, je finirai mes jours ici. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mon fils, il serait là, il vous le dirait. C'est même pas la paix. Vous pouvez lui proposer un château, vous dire non. Ah non. Moi, je garde mon mobile, ma terrasse et ma place.
Merci, merci beaucoup. Hein. À tout à l'heure. Monsieur Bergès, un locataire. Vous pouvez rentrer.
Je
sais
pas ce que vous dites pour le badge.
Bah, je sais rien, Julien, parce que je vous l'avais.
Je m'appelle Monsieur Bergès Laurent. Voilà, je suis au camping depuis un an. C'est parce que je cherchais un logement, quoi. Tout simplement. Et puis, c'est pas évident de trouver, quoi. Voilà, quoi. Ah, c'est pas le même truc, hein. C'est pas du tout les mêmes conditions, quoi. Surtout l'hiver, là. Bon, bah, au niveau de la chaleur et tout ça, c'est pas évident. Ça va. À vacances à l'année, pour l'instant. Après, à l'avenir, je ne sais pas hein, comment ça va se passer. Non, c'était pas un choix. Hein. Non, non. Ah, je suis venu vraiment par hasard. Hein. Après, bon, pour avoir un appartement, c'est pas évident. Hein. Après, les prix, tout ça, enfin, bon, c'est autre chose. Hein. C'est une autre histoire. Hein. Pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, ça va, nous dit Laurent, qui n'a pas vraiment choisi d'être là. Christine, elle, a choisi. Gaspard Lyon, qui sont ces résidents à l'année au camping ?
Alors, c'est des personnes qui, pour la plupart, la quasi-totalité, appartiennent aux classes populaires, des ouvriers, des employés ou des personnes inactives. Et après, vous trouvez en fait une diversité de profils malgré tout, hein, dont témoignent là, les extraits aussi que vous avez passés. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont décider de quitter le parc locatif, pour qu'il y ait une part de choix, alors sous contrainte, hein, mais qui vont décider de quitter le parc locatif où elles auraient pu se maintenir pour devenir souvent propriétaires d'un mobil-home en général, plutôt dans des campings haut de gamme. Et puis vous avez des personnes qui ont des parcours de vie beaucoup plus heurtés, beaucoup plus difficiles, pour qui l'arrivée peut être vécue comme une forme de relégation, d'humiliation,
de déclassement,
etc. Et des personnes qui ont des parcours plus précaires encore et pour qui le camping, c'est une façon en fait d'éviter la rue. Que ce soit en amont une manière comme une sorte de filet de sécurité avant la rue ou une manière de sortir de la rue, de la violence extrême, du dénuement extrême, etc. Et ces personnes-là, en général, elles s'investissent beaucoup dans ces terrains de camping, dans leur habitat, pour l'améliorer, et parce que voilà, ça peut constituer une forme d'amélioration aussi très forte par rapport à ce qu'elles ont vécu jusque-là.
Vous nous dites que pour une part, et c'est ce que nous raconte Christine, finalement, la nécessité était aussi d'accéder à la propriété, d'avoir un chez-soi, même si c'est juste le mobil-home et pas le terrain. Qu'est-ce que ça représente cette forme d'accession? Pardon pour ce qualificatif, mais dégradé à la propriété, si important finalement dans ces espaces d'avoir quelque chose à soi.
Oui, je dirais que c'est clairement le symptôme en fait des difficultés pour les classes populaires aujourd'hui à accéder à la propriété. On sait que l'accession est devenue de plus en plus sélective socialement, de plus en plus inégalitaire. Un ouvrier, il a plus de deux fois moins de chances qu'un cadre d'accéder à la propriété. Hein, il faut rappeler, voilà, les inégalités hein, très très prononcées en matière de logement aujourd'hui. L'extrême concentration de la propriété immobilière aussi. Hein, aujourd'hui, hein, la moitié du parc locatif privé est détenue par seulement 3,5% de la population, qui a pour caractéristique d'avoir au moins 5 logements. Hein, donc, il y a une très très grande concentration de la propriété immobilière. Et pour des personnes qui ont ce profil, des ouvriers ou des employés, Aujourd'hui, voilà, l'accession à la propriété est rendue quasi impossible ou de plus en plus compliquée, et le camping peut devenir du coup une alternative au pavillon ou à la maison inaccessible. Et vous avez parlé de propriété dégradée. De fait, hein, en fait, un élément quand même à souligner, c'est que ces personnes, elles peuvent apprécier la vie dans ces campings. Hein, elles décrivent les avantages, le fait de se libérer des contraintes de la location, d'être propriétaire de son habitat, pouvoir...
Oui, Christine nous dit, hein, je ne suis pas dans une cage à poules, je rentre, on entend les oiseaux, enfin voilà.
Ouais. Voilà, c'est ça, elle se libère aussi de vie en logement collectif, on peut construire son habitat à son image, etc. Mais malgré tout, ces personnes, elles sont locataires en fait du foncier, elles sont propriétaires de l'habitat mais pas du foncier, et donc il y a tout un tas de contraintes qui sont liées à cette forme d'accession à la propriété. Hein, tout d'abord, c'est une forme qui n'a aucune valeur patrimoniale, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un bien immobilier dont les prix ont tendance à s'apprécier, à augmenter avec le temps, un mobil-home, en l'espace de quelques années, il perd beaucoup de sa valeur. Il y a une décote très forte. En 3 ans, ça peut perdre jusqu'à 50% de sa valeur, un mobil-home neuf. Donc, c'est clairement pas un investissement immobilier, un investissement économique. Par ailleurs, ça se dégrade beaucoup plus vite qu'un logement ou une maison, hein, donc on le transmet pas à sa descendance en général. Enfin oui, c'est jamais évoqué par ailleurs en entretien. Et puis je dirais qu'il y a aussi tout un tas de contraintes qui sont liées au fait d'être locataire de la parcelle, où on dépend en fait du règlement intérieur du gérant qui peut déployer tout un tas de pratiques qui évidemment n'existent pas dans le parc ordinaire. Un gérant peut par exemple peut demander à ses résidents de déclarer les visites extérieures, faire payer pour l'hébergement de personnes extérieures au camping. Il peut également les pousser à racheter un mobil-home au bout de quelques années, sous des prétextes qui sont avancés comme esthétiques, et qui, en fait, des gérants qui ont leur propre parc de vente de mobil-home, leur entreprise de vente de mobil-home, ou qui ont des liens avec des constructeurs et qui touchent des commissions importantes. Voilà. Donc vous avez tout un tas d'éléments qui, effectivement, interdisent de penser cette forme d'accession comme une forme d'accession à la pérenne, propriété, une autre pérenne, etc.
Finalement, vous le mentionnez dans le livre, il y a 7% aux États-Unis de la population qui vit en camping ou qui vit sur des terrains. Diriez-vous que dans la crise aujourd'hui qu'on traverse, on est dans une forme de dérive, et je mets des guillemets à ce terme, à l'américaine de notre fonctionnement résidentiel ?
Mais en tout cas, c'est une situation qui entre clairement en résonance avec la situation américaine, hein, puisque en fait, les ingrédients qui ont conduit au développement exponentiel de ces formes de logement aux États-Unis sont aujourd'hui présents en France. C'est-à-dire que le camping résidentiel aux États-Unis s'est développé de manière massive à partir des années 80, dans un contexte de précarisation sociale, de paupérisation sociale, et dans un contexte où l'État a désinvesti le logement, et notamment le logement à bas coût. Et de fait, aujourd'hui, on est depuis les années 2000, on voit qu'il y a une envolée des prix du logement, qu'il y a un accroissement des inégalités, de la pauvreté, plus de 9 millions de personnes qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, et puis des mesures de dérégulation du marché immobilier, hein, qui ont conduit à cette envolée des prix et à des difficultés structurelles croissantes pour les classes populaires à se maintenir dans le parc ordinaire. Et puis par ailleurs, j'ajouterais que si la situation se développe de manière aussi importante en France, c'est qu'en fait la France, comme les États-Unis, dispose d'une offre très abondante en matière de terrain de camping. Elle dispose du deuxième parc mondial après les États-Unis, et elle concentre à elle seule un tiers des capacités européennes. Donc il y a plus de 860 000 emplacements dans le terrain de camping. Donc il y a une offre abondante qui permet de répondre à ces besoins qui n'arrivent pas pour ces personnes qui n'arrivent pas à se loger dans le parc ordinaire ou à satisfaire leurs attentes.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Le camping du Criquet, bonjour. Oui. Je vous écoute.
Je suis Sylvie, la gérante du camping Le Criquet. Ça fait 3 ans déjà que je travaille sur les campings. La différence, en fait, c'est que moi, je viens d'un camping saisonnier et que là, c'est un camping résidentiel. Ça n'a rien à voir du tout. Aucune journée ne se passe à l'identique. Hein.
Je peux commencer, venir ici à 8 heures, à commencer à répondre aux mails, à faire un peu de bureau. Et je peux être amenée parce que c'est bouché de l'autre côté, parce qu'il y a un tel qui n'arrive pas à démarrer sa voiture. On aide dans tout et n'importe quoi. Donc, y a beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'ils sont seuls et ils ont besoin de parler. Ça, il y a beaucoup aussi. On fait beaucoup de social. J'essaye d'aider les gens comme je peux. Après, qu'ils repartent avec le sourire, en fait, c'est le principal. Ce camping-là, je suis amenée à le développer, en fait. À le développer, à faire des choses qui sont plus accueillantes pour que les gens soient heureux, puisqu'ils habitent ici, c'est un mini-village. On a pas loin d'une centaine de mobilhomes. En sachant qu'il y a des locataires et des résidents. Et la différence entre les locataires et les résidents, c'est que les locataires, les mobilhomes nous appartiennent et nous louent le mobilhome. Les résidents viennent avec leur propre mobilhome et louent l'emplacement. Ça va de 590 euros à une chambre, à 780 les trois chambres.
Donc là, c'était un coup de fil, par exemple, pour une visite, c'est ça?
Exactement, pour quelqu'un qui veut venir habiter sur le camping.
C'est quoi le protocole, en fait? Comment on fait pour habiter ici?
On m'appelle si j'ai de la disponibilité. On me verse 200 euros de dépôt de garantie pour bloquer la réservation. Et on demande le montant des revenus. On fait la photocopie de la pièce d'identité. Et voilà, c'est tout. Ils ont le logement sans aucun problème.
Vous sentez que ça fait la différence pour les gens, ça?
Énormément, énormément. Il n'y a pas de profil particulier. Il y a tous les niveaux sociaux mélangés. Il y en a qui peuvent très bien gagner leur vie et qui habitent sur le camping, comme il y en a d'autres qui galèrent et bah, ils sont là au même titre que celui qui gagne bien sa vie. Et il y a des gens ici qui sont résidents depuis quelques années déjà. Hein. On a 10, 15, 20 ans, hein, même voire plus. J'ai entendu, j'étais surprise, mais bon, ils vivent là toute l'année. Moi, je pense que plus la vie est difficile et plus les gens cherche justement à s'en sortir et que le camping est une question de facilité, une question de grand air, de ne pas vivre non plus avec les voitures qu'on entend passer tout le temps. Après, les mobilhomes, ce n'est pas des vraies maisons, on est bien d'accord, mais bon, il y en a qui vivent malheureusement sur le trottoir, hein. Ils n'ont pas de chauffage non plus, il n'y a pas d'isolation, donc au moins dans un mobilhome. Ils ont un toit sur la tête et du chauffage.
Au moins, dans un mobilhome, ils ont un toit sur la tête et du chauffage, nous dit Sylvie, la gérante, au micro de Clara Menet. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gaspard Lyon? On est quand même dans un phénomène où ça devient potentiellement un marché, le mal-logement. Jusque-là, on le voyait aussi par le biais de l'habitat indigne, par les marchands de sommeil. Est-ce qu'on est dans quelque chose de cet ordre, selon vous, qui est en train de se construire, de se marchandiser? Ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose qu'il va peut-être falloir réhabiliter, parce que ça peut être une solution pour sortir de cette crise?
Bah, clairement, il y a un marché, hein, c'est-à-dire que ça s'est énormément développé avec des gérants privés qui vont, alors qui ont des profils variés en fonction des situations, des terrains de camping. Vous avez des campings haut de gamme où c'est souvent plutôt des cadres ou des cadres supérieurs qui, pour un certain nombre, travaillaient même dans l'immobilier auparavant et qui déploient leurs pratiques aujourd'hui dans ces terrains de camping, qui ont compris qu'il y avait une demande, qu'il y avait un marché, qu'il y a une niche comme ça à investir et qui peuvent gagner beaucoup d'argent par la location. Et puis vous avez des gérants qui ont des ressources plus faibles et qui peuvent aussi accueillir ces résidents pour des motivations qui sont pas strictement financières, qui peuvent être financières mais également sociales par certains aspects, hein, des personnes qui ont des parcours, des trajectoires qui sont assez différentes des premiers et qui évitent effectivement à ces personnes des situations qui peuvent être beaucoup plus compliquées comme la rue par exemple. Donc il y a la nécessité de réguler ces pratiques, puisque en l'état actuel des choses, ces résidents vivent sous la coupe dans un rapport de domination, de suggestion très prononcée vis-à-vis de ces gestionnaires, puisqu'ils sont privés en fait de tous les droits et de toutes les garanties qui sont aujourd'hui associées en France au bail locatif.
Oui. Donc, ils n'ont pas d'APL,
ouais. Ils sont privés du principe de la trêve hivernale, ils n'ont pas de contrat avec des durées minimales garanties, enfin de baux, donc avec des durées minimales garanties, ils sont pas, le principe de la tacite reconduction n'existe pas. Donc les contrats, ça peut être à la semaine, au mois ou à l'année. Et surtout, le gérant peut décider à tout moment de mettre fin à ses occupations.
Le gérant ou le maire qui peut décider, par arrêté municipal, en fait, d'interdire ce type de résidence à l'année.
Tout à fait, c'est ça. Ça peut être un gérant privé ou un gérant municipal, hein, sachant qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près un quart des campings qui sont des campings municipaux. Donc en fait, du jour au lendemain, il est possible pour ces gérants de mettre fin à cette occupation et sans avoir à se justifier. Un propriétaire d'un logement avec un bail, il doit le récupérer pour lui ou pour y loger des membres de sa famille, le revendre. Voilà, on n'a pas de motif.
Et ça, selon vous, il faut sortir de cela, il faut arrêter de cette forme d'hypocrisie sur ces habitats stigmatisés aussi, et se dire, bon, bah, en fait, cette réalité, elle existe, il va falloir protéger ces habitants-là.
Je crois que oui, il y a un besoin effectivement de réguler ces pratiques et de sécuriser les positions de ces personnes. C'est leur permettre d'accéder à des aides, leur permettre, c'est aussi permettre à des personnes qui désirent, qui aspirent à retrouver un logement, de pouvoir les aider. Et surtout, c'est éviter qu'elles soient captives de ces propriétaires qui ont des marges de manœuvre, une latitude qui est très très forte dans l'administration de ces terrains, avec tout un tas de pratiques qui peuvent apparaître abusives.
Mmh. Mais on pourrait vous objecter aussi que c'est une manière de légitimer ce type d'habitat qui n'est pas un habitat normalisé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je dirais pas que c'est une façon de le légitimer, c'est une façon de reconnaître des droits aux personnes qui les occupent. Hein. C'est-à-dire que, de fait, la situation existe, se développe. C'est pas comme si on revenait sur des normes d'habitation qui avaient été acquis sur des acquis sociaux, sur une législation qui est protectrice pour ces personnes. Là, en l'état actuel des choses, la législation, elle protège uniquement les propriétaires des terrains de camping, et donc ça donne lieu à tout un tas d'abus. Et puis j'ajouterais que ça ne suppose évidemment pas... Enfin, l'enjeu, c'est évidemment d'agir à ce niveau-là, mais aussi d'agir du côté du marché immobilier, construire de manière massive du logement social accessible, une fois encore, des logements de type PLAI, augmenter les APL, les aides sociales, enfin déployer en fait une politique de lutte contre les inégalités, puisque c'est bien sur ce terrain que se déploient les difficultés en matière de logement.
Ce qui nous renvoie au propos de l'abbé Pierre lors de son appel le 1er février 1954, dont nous fêtons les 70 ans, qui disait « Gouverner, c'est d'abord loger son peuple ». Dans ce livre, Gaspard Lyon, enfin pour ce livre, vous avez décidé de vous installer en camping vous-même, en caravane, pendant plusieurs années. Et vous racontez aussi la nécessité de sortir du stigmate, de cette vision misérabiliste, finalement très ethnocentrée, qu'on peut avoir, nous, habitants des villes, dans un habitat, ce que j'appellerais normalisé, en dur, avec des droits, sur ce type de trajectoire résidentielle. Pourquoi, selon vous, c'est important de sortir de cela ?
C'est important pour comprendre la situation, comprendre comment les personnes vivent ces situations, qui peuvent effectivement, en fait, un regard ethnocentré, qui part uniquement des normes du logement standardisé, ça ne permet pas de comprendre l'expérience vécue de ces personnes, comprendre pourquoi elles s'y retrouvent, comment elles y habitent. Mmh. Qu'est-ce qu'elles y font ?
C'est pour ça que vous avez décidé de vous y installer.
Voilà, c'était une manière de prendre de la distance vis-à-vis de discours assez distanciés, voilà, qui est surplombant et souvent très négatif, mais très négatif au sens où à la fois dépréciatif et au sens où c'est finalement une lecture uniquement par défaut qui est donnée de ces habitats. C'est une lecture par soustraction à partir des normes sociales dominantes, des normes de logement social dominantes. Là, c'est une manière de décentrer le regard pour comprendre comment ces situations sont vécues par les personnes elles-mêmes.
Ouais. Et qu'est-ce que vous y avez vu qui vous a particulièrement marqué ?
Ce qui m'a marqué, je dirais, c'est à la fois la diversité hein, des vécus, des expériences, des trajectoires sociales, et c'est la manière dont certaines personnes pouvaient effectivement se réapproprier leurs conditions d'existence sur certains plans, les formes d'autonomie symbolique aussi qui peuvent se déployer pour certaines personnes qui disposent, y compris des personnes très précarisées, qui apprécient en fait de retrouver, devenir propriétaire de leur habitat, une caravane, ou quand bien même elle peut être très dégradée, le fait d'avoir surtout une parcelle de jardin pour bricoler, pour jardiner, pour avoir un potager, des formes de solidarité aussi à l'échelle locale, des formes d'entraide, etc., qui permettent de lutter contre les difficultés, contre la pauvreté, contre la privation, et d'accéder aussi à des formes d'identité plus positives que celles que leur renvoie la société.
Gaspard Lyon, votre livre « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires », c'est paru au Seuil, et c'est à lire absolument. Merci à vous d'avoir été avec nous. Nous sommes en retard, donc je vais aller très vite. Merci Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Delphine Keravec à la réalisation épaulée par Luc-Jean Reynaud, Clara Menay évidemment pour le recueil de ses témoignages, et à la technique c'était Sébastien Royer.